mais là, on a Mathieu avec nous en studio pour la fabuleuse chronique des apatrides anonymes. Je suis cachée derrière l'ordinateur. Salut, bienvenue.
Bonjour, 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 Anne-Audrey, et Gabriel. Donc, merci de nous recevoir encore une fois. Donc, aujourd'hui, plusieurs sujets. Je vais commencer avec... un peu les suites et les réactions par rapport à ce qui s'est passé en Allemagne. C'est un peu moins dans l'actualité dans les derniers jours récents, mais ça va revenir dans l'actualité, je ne suis pas inquiet. Donc, je voulais un peu... je suis allé chercher un petit peu d'analyse ici au Québec, plutôt féministe, par rapport à ce qui s'est passé donc à Cologne le 31 décembre et dans d'autres villes, supposément aussi. J'ai glané... un communiqué du regroupement québécois des CALAC qui interviennent au niveau des agressions sexuelles, qui ont fait un communiqué assez court, mais assez intéressant au niveau de faire le lien, de dénoncer à la fois les agressions sexuelles, les viols et aussi le racisme. Donc, il commence un peu en parlant justement d'un petit élément qu'il y a eu de plus dans ce délire-là, les propos de la mairesse de Cologne qui a demandé aux femmes, à la prochaine fois, de se tenir à distance au moins de la longueur d'un bras d'une personne qu'elles ne connaissent pas dans un endroit public. C'est quand même ça, c'était quand les événements sont sortis. Donc, ça commence à mal un petit peu comme réaction.
Laisser de la place à Jésus entre nous et les inconnus.
À Jésus, oui, voilà. Ou un Dieu imaginaire. Donc, cette réponse-là montre à quel point la culture du viol et la culture de l'impunité est présente dans les élites politiques, entre autres. Donc, on transfère évidemment la responsabilité aux femmes et non pas aux agresseurs, et leur sécurité par le fait même. Et évidemment, dans le communiqué par rapport au racisme aussi, on précise que peu importe le pays d'origine ou la confession religieuse des agresseurs, ça reste le même problème, que ce soit ici ou ailleurs, évidemment. Et on est souvent dans un contexte social qui permet ce genre de choses-là au niveau de l'impunité, au niveau de permettre ces actes-là, donc ces agressions-là, de se dérouler. Sinon, ça a été transféré, évidemment, au niveau de viser les réfugiés parce qu'on a su, que quelques potentiels agresseurs pouvaient être des réfugiés ou des immigrants. Évidemment, ça augmente une autre oppression qui est le racisme en plus du patriarcat et du sexisme. Et quand on regarde en Allemagne, la grande majorité des agressions sexuelles ont évidemment lieu par des Allemands eux-mêmes et non pas par des réfugiés. Donc, quand on relativise un peu au niveau de l'ensemble de ce qui se passe dans une année, c'est un petit peu plus large. Donc, évidemment, c'est sûr, les groupes d'extrême droite comme PJDA ou les partis politiques ont repris ça pour accuser les réfugiés, pour demander des pressions pour qu'ils puissent être expulsés plus rapidement, qu'on réduise le nombre de personnes qui puissent rentrer en Allemagne, parce qu'on sait qu'il y en a eu près d'un million en 2015. Donc, on remplace une violence par une autre, donc on est vraiment bien avancé. Et on rajoute aussi que dans le cas des conflits armés, des guerres civiles, donc pourquoi les réfugiés fuient leur pays, la plupart des femmes ont été aussi victimes d'agressions sexuelles dans leur pays d'origine en général. Donc, c'est pas en expulsant les réfugiés en général qu'on va régler le problème de ces agressions-là, de ces violences-là qui ont eu lieu. Donc, c'est un peu le contenu du Recalac. Sinon, il y a une chroniqueuse que je lis de temps en temps qui s'appelle Judith Lucier, qui publie dans le Métro, qui est quand même assez intéressante au niveau de son approche féministe. Elle parle évidemment du fait qu'on a accusé les féministes progressistes de ne pas dénoncer ces agressions parce que c'était fait par des migrants. Donc, évidemment, ça a été dit dans plusieurs médias ici, comme en Europe ou ailleurs, donc de rester muette devant ces agressions-là. Évidemment, ce qu'elle répond, elle, c'est que avant de faire une opinion complète sur ce genre d'événement-là, où on n'a pas eu vraiment d'informations complètes, c'est sorti au compte-gouttes pendant plusieurs semaines, et même actuellement, à l'heure actuelle, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu des plaintes, mais il n'y a pas eu à peu près personne d'identifier ou d'arrêter. Évidemment, il y a plein d'éléments là-dedans qui sont pas connus. Donc, elle réclame le droit de prendre quelque temps avant d'analyser le fait de blâmer les migrants en particulier. Et évidemment, de par ce fait même, de remettre en question toutes les politiques d'accueil des réfugiés. Évidemment, elle souligne avec raison que tout d'un coup, des groupes racistes se découvrent des penchants féministes, se pointant à la défense des femmes. Ils parlent de nos femmes, évidemment, aussi, dans ce cas-là. Donc, c'est assez rapide quand on peut pointer des hommes ici d'autres cultures. Mais évidemment, quand c'est les hommes de la majorité, c'est un peu moins rapide sur la dénonciation de la culture du viol. Donc, et ces groupes d'extrême droite droite glorifie évidemment les rôles traditionnels et la place des femmes à un certain endroit. Et elle souligne aussi qu'il est quand même assez drôle que si les agresseurs du 31 étaient des Maghrébins et Arabes en état d'ébriété, elle dit que se sont bien intégrés à la culture allemande parce que pendant l'Oktoberfest, entre autres, il y a beaucoup de viols en Allemagne. Donc, c'est un peu une boutade, là, mais bon, c'est quand même intéressant. Comme... Et elle finit en disant que ben beaucoup de féministes se retrouvent en section d'intersectionnalité, d'avoir un peu de pas de difficulté, mais d'avoir une interrogation à dénoncer une situation qui risque de renforcer un autre préjugé, par exemple, dans le cas du racisme. Donc, ça invite à la prudence, mais pas à l'inaction non plus. Donc, mais c'est sûr que ces événements-là, qui sont repris par des groupes d'extrême droite, des populistes, des politiciens, donc il y a une attitude qui est celle-là, et il y a celle aussi de dénoncer, mais d'être quand même un peu plus nuancé et de pas faire des amalgames avec des propos racistes, entre autres. Et elle fait aussi ce qu'elle a appelé une liste pour nouveaux alliés. Ça aussi, c'est un peu comique. Donc, elle demande où sont les xénophobes alors lorsqu'il est temps de dénoncer la culture du viol. Et elle leur demande de devenir des alliés du mouvement féministe, finalement, et des femmes. Et que un soudain intérêt pour la lutte contre les agressions contre les femmes pourrait leur faire faire d'autres choses. Par exemple, s'informer mieux au sujet de la culture du viol et la combattre, prendre le risque de passer pour une personne lourde et sans humour lorsque tu dénonces une blague sexiste dans un party ou dans un party de famille ou avec des amis, écouter les victimes d'agressions sexuelles et résister à la tentation de croire que leurs témoignages sont motivés par un désir de vengeance, retirer le mot salope de votre vocabulaire, par exemple, cesser d'utiliser l'expression « nos femmes », comme je disais tantôt, s'intéresser aux victimes d'agressions qui sont souvent des femmes autochtones, immigrantes et racisées. Dénoncer les comportements harcelants des personnes de votre entourage, c'est assez dans l'actualité. Et s'intéresser aux agressions sexuelles en tout temps, et non pas seulement quand c'est commis supposément par des réfugiés. Donc, je trouvais ça intéressant d'aller un petit peu plus loin, faire du chemin là-dessus. Là, je change de sujet complètement, je vous avertis. On parlait de politique canadienne. Beaucoup de gens attendent avec impatience les changements aux lois sur l'immigration que les libéraux fédéraux ont promis ou ont supposé qu'elle allait faire. Premièrement, un de leurs points principaux dans leur promesse était de doubler le nombre de dossiers de réunification des familles. Actuellement, on sait qu'il y en a à peu près... les conservateurs avaient mis ça un maximum de 5 000 demandes par année, et c'est seulement pour des parents ou des grands-parents âgés. Donc, c'est pas nécessairement pour des enfants ou des conjoints, par exemple. Trudeau, en septembre dernier, a dit qu'il allait doubler le nombre de demandes de réunification acceptées par année, et aussi faire plusieurs réforme au niveau de la fameuse loi qu'on a beaucoup parlé ici, que Kenney a faite, a tout changé, cette immigration pendant le règne des conservateurs. Voilà, ça c'est la promesse, mais pour l'instant, on a certaines indications que ça va se faire d'ici la fin du mois de février, qu'il va y avoir des annonces, entre autres, sur la réunification des familles, mais pour le reste, c'est pas encore... détaillé dans l'ordre du jour, disons. Sinon, il y a plusieurs causes pendantes au niveau judiciaire que les conservateurs avaient amenées en cours. Ils contestaient parce que, bon, suite à leur fameuse réforme de l'immigration, il y a eu beaucoup de poursuites au niveau de la charte et il y a eu plusieurs décisions, soit de la Cour fédérale, soit de la Cour fédérale d'appel, qui invalidaient des articles de cette nouvelle loi-là. Et les conservateurs allaient en appel systématiquement pour aller éventuellement en Cour suprême. Il y a eu un cas dont Simon a parlé il y a 3 semaines sur les Sri Lankais qui est arrivé par bateau de façon illégale. Il y en a eu un autre, c'est le droit d'appel pour les réfugiés qui sont refusés, qui viennent de pays dits sûrs, les pays fameux, pays désignés, dont on vous a parlé souvent ici. Donc, en juillet dernier, la Cour fédérale a invalidé ce droit de refus qui est aboli pour les gens originaires de pays jugés sûrs. Et là, les libéraux ont annoncé qu'elle allait laisser tomber l'appel, donc qu'ils laisseraient le jugement se faire. Ça veut dire qu'il faut qu'ils changent la loi, par exemple, et qu'ils enlèvent cette désignation des pays sûrs. On parle de ressortissants de la Croatie, de la Hongrie, de la Roumanie, surtout qui avait fait appel, donc des Roms, dans les faits, c'est ça la réalité. Et pays d'origine désigné, ça veut dire des pays qui sont considérés comme des États de droit et ayant des tribunaux des droits humains adéquats et où une personne est moins susceptible qu'ailleurs d'être victime de persécution. Donc, il y a le Mexique là-dedans aussi, il y a différents pays, donc ça va changer quand même la dynamique pour les personnes dont leur droit d'asile, leur droit de refuge est refusé. Au niveau des risques de torture, ça c'est un autre sujet dont on vous a beaucoup parlé ici à l'émission, en chronique. Il y avait des directives plus ou moins claires sur le fait de transmettre des informations à d'autres pays si ça risquait d'encourager ces pays-là, avec des ressortissants canadiens, de les torturer pour avoir plus d'informations. Et il y avait une politique qui était sur la table, mais que les conservateurs ont un peu contourné, qui disait qu'on devait vérifier, qu'on devait voir s'il y avait des risques de torture éventuels. On a le cas de Maher Arar en tête, évidemment, qui était torturé en Syrie à l'époque. Donc, cette politique-là a été critiquée à plusieurs reprises. Et là, le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une série de consultations par rapport à cette question-là, parce que, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. Et dans un contexte où il y a de plus en plus de gens qui ont des allégations de terrorisme, ça peut mener à toutes sortes d'abus dans ce sens-là. Donc, ça, c'est un autre truc qui a été annoncé dans les dernières semaines. Sinon, petite nouvelle intéressante, ça date du mois de décembre, mais elle a passé un peu inaperçue. Il y a une femme de l'Estrie qui avait quitté les États-Unis avec ses enfants pour fuir un conjoint violent, qui n'est pas citoyenne ni américaine ni canadienne, qui est en attente de statut et qui avait été arrêtée au Canada, donc parce que les États-Unis demandaient son extradition pour être jugée pour enlèvement d'enfants. Et finalement, au mois de décembre, la ministre a décidé de sursoir à cette procédure d'extradition, le libérer de Tanguay. Elle est retournée à Lac-Mégantic avec sa famille, mais son cas n'est pas tout à fait réglé parce que il y a encore la demande d'extradition qui est là. Son statut n'est toujours pas officiel. Donc, ça va être à voir. La Cour suprême avait quand même ordonné son extradition. Donc, c'est vraiment une intervention spéciale de la ministre de la Justice là-dessus. Donc, elle aussi, il y a un suivi à faire dans les prochaines semaines, prochains mois, pour voir si son dossier va être réglé par rapport à l'extradition puis par rapport à son statut. Si j'ai le temps, je vais... deux minutes. Juste vous dire qu'il y avait eu une lettre ouverte dans le journal Le Devoir par rapport aux réfugiés syriens et le logement, faite par les gens du RECLAC et du comité d'action de Parc Extension, qui donnait quelques conseils aux réfugiés par rapport à la situation du logement à Montréal, parce qu'on dit que les gens doivent être logés dans le privé, dans des HLM, dans des hôtels, on ne sait pas trop, des centres d'hébergement. Et la réalité à Montréal, c'est que le logement est assez rare, est en mauvais état en général dans le privé, et il est très cher. Et donc, on conseillait aux réfugiés qui arrivent donc par milliers, disons, ces temps-ci à Montréal, de bien connaître leurs droits et de ne pas se faire exploiter par des propriétaires abusifs qui demandent toutes sortes de papiers, qui refusent pour toutes sortes de fausses raisons, qui louent des loyers qui sont en mauvais état, qui sont quasiment condamnables. Donc, c'est une lettre que j'invite les gens à aller voir ça s'ils veulent la lire au complet. C'est Conseil aux réfugiés syriens. Ça a paru dans Le Devoir le 17 décembre dernier. Et on finit en disant que Trudeau promet plus de logement social. Le maire de Montréal promet de poursuivre les propriétaires récalcitrants et délinquants. Que le ministre des Affaires municipales québécois défend les propriétaires et réduit le nombre des régisseurs à la régie du logement pour les causes d'appartements insalubres. Et que dans les faits, souvent, ce qui arrive à la fin, c'est que les gens sont jetés à la rue pour toutes sortes de raisons. Donc, de se méfier, d'aller voir leur groupe communautaire pour défendre leurs droits. Donc, voilà. Chronique Express pour vous deux.
Merci, Mathieu, pour cette chronique quand même assez intéressante.
Assez dense aussi, hein? Et Marie-Ève sera là la semaine prochaine.